Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bienvenue sur Beurre FM en ce vendredi soir, vendredi 15 décembre, 20h pétante. C'est l'horaire de votre quotidienne sportive qui n'est autre que Time Sport. Chaque soir sur la plus belle des radios qui est Beurre FM, le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard. On retrouvera, c'est promis. Allez, les informer avec toute la troupe d'Adil Farkan. Et oui, une belle équipe ce soir avec lui, hein, en plateau sur l'antenne de Beurre FM. On le retrouvera dès lundi soir. C'est parfait. Valessa arrivera à 21h jusqu'à 23h. Mais place horaire, c'est 20h, 21h à votre quotidienne concernant la planète sport. Ce soir, on va parler de quoi ? Eh oui, de Marseille qui échoue selon certains supporters et supportrices de l'Olympique de Marseille et pas que. On reviendra sur le club de la cité phocéenne. Eh oui, les bleus et blancs, Marseille face à Brighton hier soir. Lyon en Ligue 1 Uber Eats qui rencontrera donc les Monégasques du Rocher. Eh oui, Lyon ASM, c'est le match de ce soir, le match phare du football français. Et enfin, on parlera de la boxe française dans le doute, et eh oui, à peu près, à l'approche de Paris 2024. On reviendra, c'est promis, avec toute l'équipe de Time Sport concernant cette fameuse boxe française. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir sur l'antenne de Beurre FM. Le débat du jour, on le rappelle, selon vous, chers auditeurs, Marseille pourra-t-elle poursuivre sa campagne européenne en Europa League ? Allez, sans plus tarder, on va commencer avec la fine équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Eh oui, ça nous rappelle la chaleur de l'Olympico, non, de l'Orange Vélodrome, du Stade Vélodrome. Ça fait sourire Mathieu, ça fait sourire aussi notamment Ryan qui sont de la partie ce soir. Et aussi Angela, voilà Angela qui nous vient tout droit de la plaine ibérique. Hein. Petit clin d'œil à Jouba ce soir. Bonsoir Jouba,
c'est ton ami qui est avec nous.
Hola chica,
Hola chico, pas de problème.
Estoy feliz de estar aquí esta noche. Je suis content d'être avec vous. On va repasser au français quand même. On va passer le petit clin d'œil à Angela qui est avec nous. Écoute, je suis content. Il y avait une bonne émission, des bons invités juste derrière.
Ça t'a plu les invités d'Adil Farkan ce soir ?
Il y avait quand même des personnes assez honnêtes intellectuellement, donc ça fait plaisir.
Voilà, on est là pour le peuple.
Donc voilà, gros dédicace à ceux qui étaient là et qui se reconnaîtront juste avant. En tout cas, là, on est content de passer au foot et au sport globalement avec tous les auditeurs et auditrices qui vont nous rejoindre évidemment ce soir.
Et pas que. Et aussi des consultants journalistes de Beurre FM de cette émission qui est Time Sport. Mathieu, bonsoir, comment ça va Mathieu ?
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde. Déjà j'aime beaucoup la petite musique qui est passée là intro.
Et il nous fait kiffer sur la réalisation.
Ça rappelle l'entrée des joueurs du stade Vélodrome, donc ça fait plaisir. Et on a encore un beau programme et on va bien s'amuser. Et puis on va encourager les filles du Hand qui jouent leur demi-finale ce soir contre la Suède.
Et on l'espère.
Si elles s'imposent, elles joueront contre la Norvège qui ont battu les Danoises 29-28.
Attention, c'est un gros morceau la Norvège.
C'est
très Mathieu,
fort.
C'est très fort, ouais, c'est ça. Ryan, juste en face de Mathieu. Bonsoir Ryan.
Bonsoir Bilal.
Comment
bonsoir,
ça va
les amis, j'espère.
Une belle
que...
coupe, Ryan, carrément.
Ouais, merci, hein. Merci beaucoup. On est allé chez le coiffeur.
C'est ça. C'est les bons coiffeurs, Ryan.
Ah ouais, c'est le bon coiffeur.
C'est pas le coiffeur rebeu du quartier, non.
Tout comme celui de Solal. Moussa est avec nous. Bonsoir Moussa, comment ça va Moussa ?
Ça va, on peut pas se plaindre.
Ouais.
On peut pas se plaindre.
Ah ouais.
En plus,
on est bien.
J'ai bien. Je crois qu'on va parler boxe. Donc,
On te fait plaisir ce soir Moussa et pas qu'à Moussa. Hein. Non mais c'est vrai Moussa.
Oui, y a beaucoup de...
Moi je me fais plaisir aussi en parlant de boxe. Hein.
Ouais, y a beaucoup de gens qui me suivent et voilà. Mes abonnés de la chaîne Rien que la boxe.
Rien que la boxe, le fameux podcast de Moussa. Oui. Eh ben, on pense à eux Moussa et on pense aussi aux auditeurs, aux auditrices de Beurre FM sans oublier Solal qui est avec nous ce soir. Bonsoir Solal.
Bonasera à tutti les amis, j'espère que vous allez bien. Un plateau magnifique comme d'habitude sur votre quotidienne sportive Time Sport. Bah voilà, écoutez, si vous voulez communiquer avec nous tout simplement par les sports, ça se passe au 01 53 48 3000. Et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site Beurre FM, quoi dire de plus, franchement,
voilà.
Les amis.
Ah ben c'est super, il a été complet, le réalisateur, Solal. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe. Il y a Ryan, il y a Mathieu, il y a Moussa, sans oublier Jouba qui sont de la partie ce soir. 1-0 en toute fin de jeu. Eh oui, João Pedro, magnifique. Mourad qui est à l'écoute ce soir, il nous disait attention à ce joueur de Brighton. On rappelle que même l'entraîneur de Brighton devait figurer entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il était en tout cas ouvert. Eh oui, une opportunité du club de la cité phocéenne. Marseille passe à la trappe dans ce groupe B lors de cette dernière journée, la 6e. Mathieu, on t'écoute.
Je suis mitigé entre...
Ouais, beaucoup de monde, hein. Y a pas que toi, je crois. Hein.
Le sentiment de... Est-ce que je dois être énervé? Est-ce que je dois être triste?
Bah vas-y, tu peux être. Il y a Jouba avec nous, il y a Ryan.
Je peux être les deux. Parce que honnêtement, on n'a pas vu grand-chose. Alors oui, il y a eu deux tirs sur les montants de la part des Marseillais qui auraient pu changer la physionomie du match. Mais mis à part ça, les Anglais ont dominé du début à la fin. Et quand j'entends à la fin notre cher Gennaro Gattuso qui nous dit « Je n'ai pas voulu jouer Catenaccio », j'aimais beaucoup le joueur. J'aime bien ce qu'il a apporté au sein de cet Olympique de Marseille qui était vraiment à la ramasse quand il est arrivé. Mais là, de dire qu'il n'a pas voulu jouer Catenaccio, j'ai du mal à le croire.
Ouais,
j'ai du mal à le croire. Maintenant, Brighton a fait un bon match. Voilà, même si, encore une fois... Si vraiment il veut jouer le match nul et serré à la fin, João Pedro peut pas se mettre entre les deux centraux à la fin comme ça et passer et avoir le pouvoir de se retourner aussi facilement. Mais juste petit mot sur João Pedro, dès qu'il est arrivé à Brighton et les qualités qu'il a, je pense qu'il fera pas long feu à Brighton et qu'une grosse écurie va bientôt l'approcher.
Eh oui, Jouba, grosse écurie.
Rappelons qu'avec cette deuxième de place, du coup, qu'il laisse cette première place qu'il laisse filer, l'Olympique de Marseille devra jouer les 16e de finale. Ils devront affronter un club qui passe à la trappe en Ligue des Champions, qui passe 3e. Donc ça peut être compliqué aussi hein, pour l'Olympique de Marseille qui peut affronter aussi un gros de Ligue des Champions qui est peut-être passé à la trappe. Donc 16e de finale, ils seront là, certes en février, mais attention ce match-là. Je suis d'accord avec Gattuso, ils sont pas venus jouer le Catenaccio, ils sont venus jouer la défaite, j'ai l'impression. Hier, ça n'avait ni queue ni tête. On savait pas ce que voulait Gattuso. On savait pas ce que voulaient les joueurs. On attendait beaucoup plus offensivement. En finale, il y a eu très peu de, mis à part ces deux montants, comme l'a précisé Mathieu, mais très peu d'envie, j'ai l'impression, dans le jeu. On était ensemble, Bilou, hier soir. Et franchement, on s'est dit, mais c'est une purge. J'espère juste qu'ils vont pas se prendre ce but à la fin de match. Et finalement, ils se sont pris ce but en fin de match. Et le désespoir est total et on le sait, l'Olympique de Marseille, après avoir vendu le Champion Project avec la Ligue des Champions, a été rétrogradé en Europa League Project et maintenant 16e de finale Project. En fait, on ne sait plus où on va avec cet Olympique de Marseille. Il faut qu'il y ait un sursaut et malheureusement Gattuso, je pense que d'amener cette équipe assez loin. Même si on le rappelle, l'Olympique de Marseille il y a 4 ans était finaliste d'Europa League.
On s'en rappelle, tout comme Ryan.
Ouais, moi, je vais vous dire très, très honnêtement.
Alors, pour toi.
En fait, je vais pas vous mentir. Hein. Cette saison, je n'attends pas grand-chose de ce club. Voilà. C'est pour moi, j'ai voulu arrêter d'être déçu tous les week-ends, tous les jeudis aussi. Donc, à un moment donné, on se projette avec ce club forcément en début de saison, surtout avec un mercato XXL, avec un entraîneur aussi qui pour moi a le profil d'entraîner l'Olympique de Marseille parce que
Gattuso.
Voilà, Gennaro Gattuso pour moi c'est l'image type de l'image on va dire de l'Olympique de Marseille. Après, je vais pas vous mentir, je n'attendais rien dans le sens où pour ma part en tout cas l'Olympique de Marseille est un total changement, que ce soit au vu de l'effectif ou même au vu du staff. Il y a beaucoup de choses qui vont changer cet hiver, notamment aussi en début d'année prochaine, avec la venue potentielle de Saouzier. Après bon, c'est encore beaucoup de, il y a beaucoup de papiers encore à faire, c'est pas sûr à 100% exactement, mais mine de rien je pense que ça fait réfléchir aussi certains joueurs qui jouent dans ce club-là, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Kondogbia, que ce soit aussi, comment il s'appelle, le défenseur centre Chancel Mbemba. Tous ces joueurs-là, eux-mêmes ne sont pas sûrs de rester dès cet hiver. Eux-mêmes ne sont pas sûrs de continuer avec l'Olympique de Marseille parce qu'ils savent que le changement est.
C'est bancal, ouais.
Va arriver très très vite. Et un gros changement risque de mettre en péril, en tout cas, le contrat de ces joueurs-là. Parce que je le rappelle, je vous rappelle qu'effectivement, il y a les Saoudiens qui sont. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent autour des Saoudiens qui vont potentiellement racheter l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de choses aussi qui se disent au vu du championnat saoudien avec le départ imminent de Wesley Fofana, le milieu centre de Al Nasser, qui lui aussi plaît énormément aux Phocéens.
Ouais.
Le truc, c'est que.
Tiens, ouais.
le truc c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui les joueurs ne sont pas sûrs de rester. Donc forcément ils vont jouer, ils vont vouloir jouer jusqu'au bout, voilà, pour non, effectivement certains aller à la CAN, comme ouais, ceux qui viennent de citer.
La CAN arrive. On passera dans une émission spéciale CAN aussi, nous. Hein.
C'est pour ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement ouais. les joueurs vont se donner à fond pour ça.
Ouais.
Mais au-delà de ça, je vais pas vous mentir, hein, ces joueurs-là risquent de partir dès cet hiver. Et c'est pour ça aussi qu'à chaque match, les amis, ouais. on se dit à chaque fois ouais. que les joueurs ne veulent pas jouer. Parce qu'effectivement, les joueurs ne veulent pas jouer.
Le problème, Mathieu, ouais, les joueurs ne veulent pas jouer.
Le problème, tu parlais de Gattuso tout à l'heure. Et je pense aussi,
Moussa aussi.
Je pense que c'est aussi l'homme de la situation. Mais est-ce que l'erreur, elle n'a pas été faite justement au début de saison en choisissant Marcelino, qui n'a pas du tout le profil de l'Olympique de Marseille, alors qu'on voit à côté de ça un Gattuso qui a le profil parfait pour l'OM. Donc maintenant, de là à dire qu'ils n'ont pas envie de jouer, je trouve que t'es un petit peu dur. Parce que forcément, quand t'es compétiteur, t'as tout le temps envie de jouer.
Ah,
hier,
t'as pas envie de jouer, Mathieu. Tu tapes, regarde, hier, je vais te dire.
Attends, on va laisser terminer Mathieu. On va revenir à vous.
Vous avez quand même une équipe en face qui sait jouer au ballon. Avec des jeunes joueurs qui, comme João Pedro qui marque, avec le petit Ferguson qui rentre en fin de match. Enfin, il y a plein de jeunes joueurs et de très bons jeunes à Brighton. Marseille, c'est plus qualitatif quand tu vois Aubameyang.
Et ben pour moi, Brighton,
pour moi, en termes qualitatifs, Brighton, c'est plus fort que Marseille.
Lui, il sera en évidence. Le coach Tolé l'a dit. Moussa, on va écouter Moussa.
Je pense qu'il faut enlever le nom de Brighton.
Voilà, Brighton, allez.
C'est peut-être un nom qui est pas très ronflant. Mais voilà, depuis un an, ils ont fini 6e. Ils ont fait une très très bonne saison. C'était une équipe un peu surprise. Et pour parler du match d'hier. Moi je suis arrivé à la mi-temps, j'ai vu 0-0 et j'ai vu un Olympique de Marseille, pour moi, qui jouait la contre-attaque. J'ai vu des belles contre-attaques. Ouais. Il y a eu malheureusement deux poteaux.
C'est vrai.
C'est franchement dommage, mais franchement il y a un moment où je me suis dit ça va le faire. Ils vont réussir à tenir le score. Même pour moi, il n'y avait pas véritablement un gros danger. Hein.
Mais voilà,
c'est toujours la même chose avec l'OM.
Il a pas tort,
et c'est même pour ça que je suis même pas forcément déçu, parce que on est habitué à ce que à la dernière seconde, il y a une cagade.
Ça fait plusieurs matchs. Merci.
Dès à partir du moment où il est passé à 3 défenseurs contre Lyon, mis à part contre Lyon où la défense de Lyon et pas la défense de Brighton, hein, même si voilà, mais depuis quelques matchs il a un bloc médian assez bas et il joue avec ses forces en présence en contre-attaque. C'est très rare que l'Olympique de Marseille ait la possession.
Quand tu vois le match aller, c'est notre Olympique de Marseille.
Enfin, parce que vous parlez
le match aller. Excusez-moi les gars, quand il y avait le match aller face à Brighton, l'Olympique de Marseille, c'était un autre jeu. On voyait sur le
monde. C'était comment
jouer offensif. Plus offensif, beaucoup plus de propositions de jeu.
T'as regardé le match aller.
Ouais.
Sur le match aller, je l'avais déjà dit ici. Si Brighton gagne le match, c'est pas volé.
Mais ils ont joué Marseille. Tu vois les débordements côté droit avec le latéral droit. Enfin, ils ont joué sur le match aller. Hier, c'était vraiment du n'importe quoi, les gars. Hier, on a vu que
Gattuso commence à trouver son style de jeu et il va pas changer parce que
ça
c'est
marche
Brighton.
Plus. T'as Denacho en 2023, les gars. Arrêtons.
Ils sont sur 3 victoires de suite en championnat.
Ça marche contre Lyon, dernier du classement. Ça va marcher contre Lorient, Lorient pareil, c'est catastrophique. Ça va marcher forcément contre ces clubs-là qui prêchent. Cette saison contre Rennes aussi, c'est catastrophique, ils sont 13e. Mais quand on tape un gros club en face, là par contre, il n'y a plus personne. Et je ne vais pas vous mentir. Là, on va pas jouer, les amis, on va pas jouer des petits clubs là pour le tirage au sort. Hein. Alors, là, c'est Feyenoord, c'est Milan, c'est tous ces clubs là. Donc vous pensez vraiment que le 3-5, même peu importe. Là, vous me dites ça marche, mais ça marche que quand des clubs qui sont en difficulté cette saison. Essayez de vous remettre aussi en contexte cette saison.
Ça a marché pendant 85 minutes.
Ah mais bravo,
ça marche pas.
Vas-y Moussa,
attends, je crois qu'il y a un moment faut pas toujours s'en prendre je vois des erreurs manifestes sur le but. Qu'est-ce qui vient? Attends, je vais plus m'en rappeler du latéral gauche marseillais. Il a rien à faire aussi loin, Et comment il s'appelle, Pedro, c'est ça?
João Pedro.
C'est la fatigue.
Comment il peut passer deux joueurs
comme
ça?
C'est
pas possible.
C'est la fatigue.
C'est pas que des erreurs individuelles. Moi là, j'ai la chance de faire le débrief, mais hier on avait fait l'avant-match.
Ouais.
Et l'avant-match, quand j'avais donné la compo, avant de parler de la compo, j'avais bien parlé du bon touche. C'est un match qui a été équilibré par les deux coachs pour se conclure à la fin.
Il avait dit à la fin. C'est vrai, hier,
il y avait les quatre joueurs très bons qui étaient sur le banc de chaque côté. Et ça se laisse terminer sur la fin.
Sur l'Olympique
et on avait dit qu'à la fin, Brighton allait prendre Marseille. C'était prévu et c'est ce qui s'est passé.
Eh ben oui, on va revenir sur l'Olympique de Marseille, c'est promis, sans oublier le match phare de la Ligue 1 Uber Eats ce soir, l'Olympique Lyonnais face à Monaco. Et aussi, il y aura de la boxe, sans oublier aussi l'affaire Galtier.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et voilà, c'est le remue-ménage hein, dans cette Europa League. Et pas que, hein, on espère aussi que les clubs français iront le plus loin possible. On les écoute ce soir du côté de Mantes-la-Jolie au 100.5 sur la bande FM. Sans oublier aussi Montpellier, le sud de la France, 96.4. Voilà, ça fait ton plaisir à pas mal de monde aussi de retrouver les podcasts sur l'application Beurre FM et aussi sur le site beurrefm.net. Sans plus tarder, on revient sur l'Olympique de Marseille, ce club, de la cité phocéenne, avec Moussa, avec Chekib. Rien ne va plus, selon certains, et peut-être on va laisser aussi encore du temps à cette équipe marseillaise avec son entraîneur, Moussa.
Ouais. Moi, je lui laisse du temps. Je pense que Gattuso, ça fait un mois et demi qu'il est là.
C'est frais.
C'est très, très frais. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Pour moi, il n'y a pas encore péril en la demeure. Je suis assez confiant, comme le disait Mathieu. Je pense que c'est quand même l'homme de la situation. Je pense qu'il matche bien avec l'Olympique de Marseille.
Ouais.
Je m'en fais pas trop.
Son caractère, il s'en fait pas trop. Ouais. Chekib,
pareil pour moi. Ça fait aussi depuis le début que Gattuso est là. Je dis, il faut lui laisser un peu de temps parce qu'il correspond exactement à l'équipe de Marseille. Et je pense que doucement, déjà là, un mercato d'hiver, va peut-être ramener un ou deux joueurs pour combler un peu les trous. Et je vois que Marseille, elle fait que de progresser. Effectivement, Marcelino, je ne sais pas si c'était une erreur, mais c'est vrai que c'était un style complètement différent. C'est un autre monde. Tu sais, quand tu diriges, tu fais des choix de coach, etc. Il se sent peut-être trompé, mais en tout cas, ça s'est mal terminé. Mais maintenant, Gattuso, dans l'esprit en tout cas, c'est le gars qui, on l'a dit plusieurs fois, c'est le gars qu'il faut pour Marseille. Donc on lui laisse le temps, on voit qu'il est en train de trouver son équipe, on voit que quand même l'effectif est bon et doucement je pense qu'ils vont progresser et à la fin de la saison ils seront vraiment, même dans 2-3 mois ils seront vraiment top.
Est-ce que je peux rappeler les clubs potentiels qui peuvent tomber contre l'Olympique de Marseille?
Allez, tu peux.
Donc on a le FC Braga, on a le Feyenoord, l'AC Milan, le Shakhtar Donetsk, le Galatasaray, Young Boys et bien sûr le Benfica.
Donc gros clubs. Attention,
c'est leur gamme. S'ils ne peuvent pas dépasser ces gars-là, il faut sortir.
Sortir, c'est ça.
Il a tout à fait raison.
Aussi.
Si tu Kamel veux espérer aller plus loin, enfin, à un moment donné, si tu finis premier du groupe et que ton ambition c'est d'aller loin dans cette compétition, c'est qu'à un moment donné tu vas jouer des grands clubs comme ça. Là, tu joues un grand club comme ça, à un moment où tu t'y attendais pas.
Mais si tu
veux continuer d'aller plus loin dans cette compétition, s'il faut aller gagner à San Siro et battre le Milan, il faut y aller.
Il faut y aller, justement.
Petit bémol de ça, c'est que là, ce barrage intervient fin février entre la CAN et la Coupe de France qui va s'intercaler là-dedans aussi. Ça rajoute
première
deux matchs,
semaine de janvier,
mine de rien, au lieu que ce soit mi-mars, fin mars, ça va être fin février. Ça va rajouter encore deux matchs, une échéance en plus.
On a l'habitude.
Et des matchs en plus, et on sent et vivement la trêve de cet hiver parce que je sens que ça commence à tirer un petit peu aussi dans les jambes.
Après, je vous rappelle l'année où l'Olympique de Marseille a fait une finale d'Europa League. Effectivement, ils ont commencé en étant, en fait, ils étaient deuxième de leur classement derrière Salzbourg, je vous le rappelle.
Voilà. Ouais. Ça, c'est la petite anecdote.
Voilà, ouais. C'est ça. Donc,
Allez, le porte-chance de Ryan, peut-être pour ces Marseillais.
Ils ont battu derrière.
En tout cas, un autre Marseillais.
En quart de finale.
Et oui, s'en est allé devant les tribunaux, si je peux me permettre, hein, avec tout le respect que l'on a pour Monsieur Galtier. Ce vendredi marque l'ouverture du procès de Christophe Galtier, mais on lui doit le respect. Oui ou non?
Bien sûr.
Ça,
bien sûr.
Je dis en tant que journaliste.
C'est la justice
pour ma part.
Qui va le déterminer.
Je le dis en tant que journaliste et aussi présentateur de cette émission, je dois le respect à Monsieur Galtier.
C'est vrai.
Voilà, c'est tout. Exilé au Qatar, l'entraîneur français est accusé de harcèlement moral et de discrimination envers certains joueurs de l'OGC Nice lors de l'exercice 2021-2022. Une aberration selon Galtier et ses conseils. Oui ou non? La parole est à vous, messieurs.
Juste deux minutes avant de commencer. Moi, je vous dis, si c'est avéré,
oui,
c'est bien sûr super grave. Si c'est avéré, c'est super grave. Et c'est inexcusable. Oui. Après, effectivement, notre collègue Nasser l'avait rappelé, il y a la présomption d'innocence. Il y a le procès de Benjamin Mendy qui a eu lieu où tout le monde l'a condamné. Nous, on n'est pas juge. Non, mais c'est pas ça. C'est des accusations à la présomption d'innocence.
Voilà.
C'est grave, si c'est pas vrai,
Attends,
un truc. Alors, nous, on n'a pas tous les éléments du dossier.
Mais on ramène
on n'est pas juge, on n'est pas procureur,
on
n'est pas avocat, on n'a aucun élément en réalité. En broadmart. Alors, moi, par exemple, moi, j'essaie, quand je viens ici, j'essaie de venir en tant que professionnel.
Il y a une
donc,
journée
j'essaie,
de procès,
je sais, mais justement,
là, tu
justement
parles
il n'est pas fini. Mais non, je parle comme si on en parlera à la fin du procès. Nous, on n'est pas juge. On n'est pas. Et alors,
la première.
Oui, les réquisitions,
alors,
c'est des Martinelli, accusations.
Le procureur de Nice a demandé 12
mois de prison. Votre honneur. Monsieur le juge.
En attendant, il y a eu Damien Martinelli, le procureur du tribunal de Nice, qui a demandé 12 mois de prison assorti de sursis et 35 000 euros d'amende. Donc, ça, au fait quand même de la journée qu'il y a eu aujourd'hui, il y a quand même visiblement assez d'éléments qui conduisent aujourd'hui à avoir Damien Martinelli, le procureur, demandait
c'est
son
procureur. Jouba, c'est le procureur de 1.
Attends, je finis.
Ouais, okay. Parce que tu t'es trompé.
C'est pas 12 mois, c'est 3 ans et 45 000 euros d'amende. Tu vois, c'est la méconnaissance du dossier. C'est ce qu'il peut encourir. Les réquisitions, elles sont de 12 mois. Les réquisitions, est-ce qu'il peut encourir, c'est deux choses différentes. Là, c'est du cours de droit, on est dans une émission sport. Bref, les réquisitions sont telles. Les auditeurs doivent comprendre que ce qui a été demandé par le procureur, c'est 12 mois.
Objection, votre honneur.
Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Chakib?
Alors.
Non, mais c'est ça. Non, mais.
Il y a des éléments selon Jouba. Mathieu.
Moi, il y a un truc qui me
dérange. Avant de retrouver Nasser.
Il y a un truc qui me dérange, c'est que Julien Fournier n'était pas là.
Bien sûr, mais il n'y avait pas grand monde. Il y avait Todibo.
Je sais, quand même.
Julien Fournier n'était pas là.
Il n'était pas là.
Donc à un moment donné,
c'est un peu bizarre quand même.
C'est lui qui met de lui sur le feu. Et lors de la première journée de procès, il n'est pas là.
Il n'y a pas qu'une seule journée dans le procès.
La première, c'est la plus importante. C'est lui qui a lancé l'histoire.
Tu crois qu'il va venir comme ça, comme une fleur, à la dernière journée du procès? On ne sait pas. Le programme, c'est la justice.
Il y a un truc Jouba aussi qui m'étonne.
Moi, je vous dis, c'est normal.
Comment ça se fait, Jouba? Si le mec, il est vraiment anti-musulman, anti-noir, anti-ramadan, qu'est-ce qu'il fait au Qatar? Pourquoi les Qataris l'ont accueilli? Mais il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Bien sûr, si c'est vrai, c'est très grave. Mais il y a des trucs quand même, il faut reconnaître.
Il y a des choses qui ne vont pas. Bien sûr, on les condamne, Mathieu. Nous, on connaît le foot.
On sait que Neymar est accusé de plein de choses. CR7 a été accusé de plein de choses. Tout le monde est accusé de tout. Si c'est vrai, c'est grave. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. On va laisser la justice. Si elle veut bien faire son travail, on verra.
Là, vous êtes quasiment en train de me dire qu'il est innocent.
On va essayer de retrouver.
Il y a des journalistes qui ont utilisé cette histoire pour vendre des livres.
Là, c'est grave, c'est des accusations. Les accusations viennent de Fournier. D'accord. Elles viennent des joueurs. Donc, entre guillemets, il n'y a rien à voir avec les journalistes. Maintenant, si c'est là, c'est bizarre que voilà qu'ils viennent pas au premier jour du procès.
On commence
entre guillemets à se poser des questions.
Normalement, quand on parle de quelque chose de sérieux,
des accusations de racisme, d'islamophobie, c'est pas rien. Donc pour Galtier, entre guillemets, c'est ça joue pour lui, hein, leur absence, ça joue pour lui. Mais bon, voilà.
Non, Moussa,
on va voir Nasser, okay, on va revenir à toi, vas-y. Parce que tu es en plateau, lui, non. Justement, bonsoir Nasser. Comment ça va, Nasser? Alors, Nasser, comment ça va?
Bonsoir,
ça va bien?
Bonsoir, mes chers amis.
Ça va bien, Nasser?
Bonsoir,
ouais,
Nasser.
Salut, Nasser. Une journée douce.
Ouais, mais justement, Nasser, on parlait de Monsieur Galtier et toute cette affaire, ce remue-ménage autour de lui.
Encore une fois, la réquisition du parquet qui demande 12 mois avec sursis. Merci. Alors après, vous pouvez retourner, et d'ailleurs, c'est rendu public, les auditions des victimes, notamment ceux qui sont d'origine algérienne. Il n'y a pas de fait avéré, et etc. Donc, c'est très, très étonnant. C'est pour cette raison que maintenant, il faut voir. On va voir après la décision des juges qui vont se retrouver. Et il y aura une décision. C'est, attention, ce que demande le parquet, ce n'est pas la décision finale. Donc, c'est pour ça. Et c'est très, très étonnant parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, à Saint-Étienne, il n'a jamais eu de soucis avec des joueurs comme Fawzi Goulam qu'il a pu mettre titulariser en Ligue 1, et grâce à Galtier, il joue en équipe nationale d'Algérie. Il a eu des joueurs d'origine malienne, sénégalaise. À Lille, c'est pareil avec la confession turque, notamment l'attaquant turc, il y a Zizi et bien d'autres, Burak Yılmaz. Et donc, moi, je me pose des questions. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Les victimes ne se sont pas déplacées, mis à part le président de la BICRA et le président de la LSP. Il n'y avait personne. Personne aujourd'hui. Donc, ils étaient où? Ils étaient où? Vous pouvez me le dire? Voilà.
Alors, c'est Ryan. Réaction avec Ryan, Nasser.
J'ai une question, mon Nasser. J'espère que tu vas bien, d'ailleurs, mon Nasser.
Ouais, ça va, merci.
Moi, j'ai une petite question pour toi, parce qu'on sait que tu as une relation particulière avec Christophe Galtier. Est-ce que tu lui aurais parlé dans la semaine ou même aujourd'hui?
Non, je ne l'ai pas vu ni dans la semaine, ni aujourd'hui. D'ailleurs, pour une raison simple, c'est qu'il a éteint son téléphone depuis cette affaire. Son téléphone, il filtre, mis à part sa famille, et encore même sa famille, pour ses enfants, il ne les a pas tout le temps. Voilà, donc il est très très concentré dans sa mission de sa défense, et aussi concernant aussi ce qu'il fait au Qatar, au Moyen-Orient.
Oui, moi juste, je rejoins Nasser. Alors, dans le fait, moi c'est aussi ça qui me perturbe depuis le début de l'histoire. Moi-même, je suis musulman, je suis d'origine maghrébine, bien sûr que cette histoire me touche. Mais quand il y a quelqu'un qui a quand même un historique, comme Nasser le dit, il est entraîneur depuis des décennies. Si c'était à nouveau, j'aurais dit oui, c'est possible. Mais quelqu'un depuis toute sa vie, il a entraîné du jour au lendemain, il y a des dingueries. C'est pas un petit mot, c'est des grosses dingueries qui sont sorties. Ça me paraît vraiment, c'est ça qui me paraît le plus étonnant. Et tout à l'heure,
attends, juste un autre truc.
Il y a aussi, moi, j'avais entendu la première interview de Fournier quand il avait dit, si je révèle ce que Christophe Galtier a dit, il rentrera plus dans aucun vestiaire de France, ni d'Europe, ni du monde. Et moi, j'avais dit, tiens, il y a quelque chose de grave. Et personne n'a relevé, personne n'en a parlé. Et ensuite, quand il y a certains journalistes qui ont servi de caisse de résonance, étaient en train de sortir leur livre, boum, l'histoire elle est ressortie. Ça aussi, ça m'a dérangé. Pourquoi l'histoire elle est pas sortie tout de suite? Pourquoi elle sort à un moment clé? C'est à tout ça. Nous, on n'est pas là, on n'est pas des piliers de bistrot, on n'est pas des mecs. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on analyse. Il faut pas prendre des gens pour des cons. Benjamin Mendy, qui va réparer sa vie? Le mec, il a été sali. Il était champion du monde. Il travaillait, il jouait pour Man City, qui était le meilleur club, un des trois meilleurs clubs au monde. Ils l'ont éclaté, ils l'ont explosé, et il est innocent. Donc les gars, prenez vos dispositions.
Attention,
il faut y aller doucement, tranquille.
Oui, il est d'accord, très bien dit. Ryan, on va revenir à Nasser pour terminer.
Je vais juste te dire un petit truc. Je pense que dans le fond, je te rejoins, mais c'est vrai que le fait de dire qu'il entraîne depuis des décennies, que tout le monde le connaît, qu'il a fait mille clubs, ça c'est pas un souci. C'est-à-dire que on s'en fout qu'il ait fait 150, 200 clubs. Si c'est possible, tout est possible dans le monde du football. C'est-à-dire que même si le mec il entraîne en Algérie au fin fond de la Kabylie, il peut aussi avoir des propos racistes. Ouais. C'est pour moi ça c'est je suis désolé de te dire ça, mais ces excuses-là ne sont pas audibles.
Alors, on termine avec Nasser avant la dernière pause. Nasser, rapidement.
Ouais, bah écoutez, de toute façon, pour l'instant, bah, moi j'attends aussi le verdict. J'ai envie de dire, alors, parce qu'on me dit oui, parce que oui, tu le connais. Bah oui, je le connais un petit peu, d'avoir côtoyé, si j'avais vu ne serait-ce qu'une seconde que c'était un bon raciste, eh ben, jamais de la vie, bah, bien sûr, je l'aurais fréquenté. D'ailleurs, je l'avais même invité à mon mariage, et donc vous imaginez bien que c'était pas un mariage, j'allais dire... franco-français, j'allais dire pure souche. Alors bon, maintenant, bah écoutez, on verra bien. Moi, je suis très très surpris que les victimes ne soient pas déplacées. Voilà, c'est ça, parce que il y avait pas beaucoup de kilomètres hein, pour aller au tribunal à Nice. Hein.
Ouais.
Donc, moi, c'est ça la question. C'est comment ça se fait qu'il y a que le président de la Vicra qui est venu,
ouais.
Et le président de la LFP. Voilà, c'est tout.
Eh ben, merci Nasser, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de BFM. Oui. On vous écoute.
Oui, c'est les avocats de la LICRA et de la LFP qui ont fait le déplacement. Mais en tout cas, on attend. Moi, en tout cas, je suis très surpris que le parquet... mais bon, on va pas... Voilà,
on
va pas
on attend. On attendra la fin de ce procès. Merci, Nasser d'avoir été avec nous pour le plus grand plaisir. Ciao. Des auditeurs, des auditeurs de Bon FM. Bonne soirée. Allez, Vedel, chez Nasser. Vous restez avec nous, chers auditeurs, et on reviendra, c'est promis, avec le match de ce soir. OL, ASM, et sans oublier aussi la boxe française.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et toute l'équipe de Time Sport avec moi jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa comme il se doit. 21h, 23h, la dernière de la semaine. On se vendredi 15 décembre. On se rapproche des fêtes de fin d'année. Voilà, à passer en famille, entre amis, mais pas seul. Hein, parce que les personnes seules, ouais, nous, Beurre FM, on pense à elles. Voilà, eh oui, on pense à Jouba, on pense à Mathieu, on pense à Ryan, on pense à Moussa. On pense à Angela, hein, qui est toujours là. Angela. Qui... Elle est pas partie, hein.
Ah non, elle est là, la
elle est là, elle est là, tranquillement. Et à Solal, à son réalisateur, justement, de cette émission qui est Time Sport. On part du côté de Lyon. Allez, c'est parti avec Lyon et la Ligue 1 Uber Eats.
Au Monaco, chez toi, il fait toujours chaud.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, c'est un bon entraîneur chez les Tuches, hein. Vraiment, ouais. C'est pas à Lyon, c'est à Monaco, on descend encore plus dans le sud.
J'ai failli oublier tout ça, monsieur.
Eh oui, on joue 21h, Monaco-Lyon.
Ouais, c'est bien ça. Jeff Tuche est un grand entraîneur.
Ah, il était très très bon en plus.
Faux choc.
Oui, je suis d'accord avec Jouba, faux choc.
On rappelle. Lyon à la 18e place et Monaco à la 3e place.
Oui, parce que Monaco, voilà, même si. Les derniers matchs, c'était pas non plus spectacle garanti comme en début de saison. Ils ont l'opportunité de repasser devant les Niçois et de revenir à 3 points du Paris Saint-Germain. Et il faut surtout qu'ils creusent l'écart encore sur Lille, sur Brest. Et puis Lyon, il y a eu de l'optimisme la semaine dernière avec cette victoire 3-0 contre Toulouse. Mais c'était un Toulouse assez faible aussi en face, même si ça a redonné de la confiance aux Lyonnais. Je vois mal comment les Lyonnais peuvent embêter les Monégasques à Monaco.
La compo est tombée. Alors, du côté Lyonnais.
On va commencer par qui ? Allez, Lyon.
Lyonnais. Donc, vas-y, on va partir, le portier portugais, Anthony Lopez. Ils vont jouer avec leur gardien titulaire, Anthony Lopez. La défense, ça va être Khaled Takkar, l'ancien Marseillais, Lovren et O'Brien, l'Irlandais. Sur le côté droit, Clinton Mata. Sur le côté gauche, Tagliafico. Au milieu, pour suppléer la défense, Cacré et Tolisso. Et bien sûr, le trio d'attaque. Ryan Cherki, Nouma et bien sûr Alexandre Lacazette qui vont affronter Monaco ce soir à 21h.
Et j'ai Monaco aussi.
Allez, Monaco, vas-y Mathieu.
Avec Chonet dans les buts, Singo, Zakaria, Salissou en défense centrale, Diata, piston droit, Jacobs, piston gauche, Camara, ouais. Fofana qui sera le capitaine, Fofana au milieu, et devant Minamino, Ali Akliouche et Balogun. A noter deux absents de marque du côté de Monaco, Vanderson et Golovin.
Golovin n'est pas là. Jouba,
je disais faux choc parce qu'on est sur deux dynamiques totalement antagonistes. Rappelons que Monaco a une moyenne de 2 points par match, 30 points pris en 15 matchs, alors que Lyon, elle, n'a que 10 points en 15 matchs. Donc on est à moins d'un point pris par match. Donc deux trajectoires totalement différentes et qui vont, je pense, se ressentir, même si on l'a dit, il y a eu 3 points de pris récemment par les hommes de l'Olympique lyonnais. Mais Là, on est parti quand même pour une belle régalade, notamment, ou en tout cas, sur le papier, pour la principauté, pour Monaco. Après, voilà, le match doit se faire. Monaco, Lyon peut se relancer. On sait que c'est très psychologique, hein, ce qui se passe à Lyon, parce qu'ils ont des armes. Ils peuvent avoir des individualités, mais c'est vraiment le collectif qui a tardé à s'huiler et qui tarde peut-être à s'huiler avec, on le sait, toutes les polémiques qu'il y a eu avec Aulas qui jette de l'huile sur le feu alors qu'il n'est plus dans cette la nomenclature du club. On sait que c'est très compliqué, mais Lyon peut s'inscrire dans une bonne dynamique, même si sur le papier ça s'annonce très très, très compliqué.
Il faut savoir, Bilal, qu'en cas de victoire des Lyonnais à Monaco, les Lyonnais passeraient devant Clermont et Lorient et seraient barragistes, et ils reviendraient à 17 points de Monaco pour la Ligue des Champions.
Ah, ça, oui. C'est chaud. Alors moi, est-ce que je peux avoir un petit message, mon Bilal, un petit message, un petit message que j'envoie à ma tante, voilà, ma tante Farida, qui est supportrice de Monaco, et qui passe.
Ah ben, elle nous écoute, Farida.
Voilà, c'est ça. Effectivement.
Petit bonsoir, Farida.
Et je l'embrasse très fort parce qu'elle passe un moment, voilà, une petite situation compliquée, donc je l'embrasse très 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 fort et je l'aime très très fort.
Toutes nos pensées vont vers Farida et toute sa famille. Voilà, la famille de Ryan, notre journaliste consultant, Moussa Chekib.
Oui, moi, ce que je trouve intéressant, si on dézoome un peu, il y a Lyon qui lutte. Personne ne s'attendait peut-être à l'avoir 18e. Là, il va falloir
Lyon restaurant en Ligue 1,
bon,
je crois.
Voilà, on est seulement en décembre. C'est là qu'il faut sortir les crocs. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont vraiment tomber ou est-ce qu'ils vont montrer le caractère et remonter petit à petit dans le classement, sachant qu'encore une fois, le foot, c'est pas que le terrain, c'est le banc et c'est aussi les bureaux. Donc tout le monde doit montrer du caractère. Ça, c'est le premier élément. Deuxième leçon à retenir, c'est pas toujours les noms qui font le club. Là, par exemple, Man United, c'est possible que dans un ou deux ans, ce soit eux qui tombent en deuxième division, même si c'est Man United. Ils sont en train de faire une chute libre comme on n'a jamais vu. Et c'est pour ça que le foot, c'est de la compétence. Si tu mets des gens compétents dans un club, un petit club, il peut monter et un très grand club peut chuter.
Moussa.
C'est pour ça qu'Olas a parlé, hein. Je pense aussi qu'il voit son club.
Son club. Le propriétaire, il l'a vendu. Il est président d'honneur et encore.
C'est son club, c'est son bébé. Le mec l'a fait de
c'est lui qui les a mis dans la boue.
Il a vendu. Sinon, rend les sous. Il a vendu. Ça y est.
Il a vendu.
C'est lui qui les a foutus dans la boue au niveau de la DNCG.
Ça reste encore son bébé, malgré tout ce que.
Pas du supporter, Olas, alors.
Pour le coup, je pense qu'il est plus que ça, mais en tout cas, je pense que ça peut être un match aussi, peut-être déclic, mais d'accrocher peut-être un Monaco, ça pourrait aussi leur mettre un petit peu le vent en poupe pour une éventuelle remontée.
Pour le coup, mon Bilal, ces deux clubs-là jouent quelque chose de très important. Monaco joue la seconde place, devancer Nice, pardon, et Lyon joue la 16e place, voilà, devant Lorient. Donc c'est vrai que ça va être un match très très compliqué de la part des Lyonnais suite à leur début de saison catastrophique. Après, moi je me pose une question, une certaine question.
Laquelle ?
C'est que ça va potentiellement. Est-ce que je me pose cette question, c'est personnel.
Vas-y.
C'est entre Lacazette et Ben Yedder, voilà, pour l'Euro 2024. Est-ce que un des deux sera éventuellement appelé par Didier Deschamps? C'est une question qui se pose.
La réponse est non.
On ne sait pas. C'est un match à un jeu. C'est un match qui va déterminer beaucoup de choses. Et pour moi, je me pose certaines questions au vu du début de saison de Kolo Muani. Je me pose la question si il va continuer avec l'équipe de France. Moi, je partirais du principe où effectivement Ben Yedder serait devant, pour ma part en tout cas. Donc, on va voir ce match-là.
Il fait pas confiance à Ben Yedder, Deschamps. Sinon, ce serait longtemps qu'il serait là. Hein.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ni oui ni non. Il va y avoir plusieurs mois. Et effectivement, si Ben Yedder et Lacazette, ils pètent tout et que Kolo Muani n'arrive pas à s'adapter au Paris Saint-Germain,
il a mis 30 buts toutes compétitions confondues. Il n'a pas été appelé.
Oui, mais s'il récidive une deuxième. S'il récidive, tout est possible. Deschamps, même Rabiot l'a rappelé. Pourtant, Rabiot lui est rentré dedans. Tout est possible avec Deschamps.
Il est exceptionnel. Il est capitaine de la Juventus.
Il a dit, Rabiot, il a a dit à Deschamps, je viens pas. Il l'a défié.
Il a pas voulu être réserviste.
Mais il a défié quand même.
Il a défié l'institution de l'équipe de France.
Oui, mais il a défié tout de A à Z. Il l'a rappelé. Moi, je dis que tout est possible et que c'est vrai que la question qu'il pose, elle est légitime. Je pense que dans quelques. Si il cartonne tout, les deux joueurs, Ben Yedder, Lacazette, cartonne tout et Colomouani n'arrive pas à s'adapter au jeu du Paris Saint-Germain et qu'il joue plus beaucoup, c'est possible. Surtout qu'à Luis Enrique, par exemple, il mettait Asensio tous les jours et d'un coup, il le met plus du tout. Il s'est blessé, mais il est revenu, il ne le met plus jouer. Colomouani, ça se peut, il ne le fera plus jouer. Donc le débat, c'est vrai, il se pose.
Ouais.
Sachant que Ben Yedder, mine de rien, Wissam Ben Yedder est à 6 buts en 14 matchs, ce qui est très peu. Et pour Lacazette, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc ça va être compliqué. Mais c'est vrai que quand on parle de Colomouani, de Marcus Thuram, tout ça, c'est un peu compliqué pour eux en début de saison.
Ils ont marqué plus de buts que Colomouani cette saison.
Colomouani, non. Non, Colomouani est à 3 buts.
Ben Yedder a marqué plus de buts que Colomouani.
Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Très bien. Autant pour moi.
Justement. Après, on connaît la philosophie de Deschamps. Hein. C'est pas forcément le meilleur, parce qu'on parlait de ça. C'est vraiment le meilleur collectif.
Là où je suis d'accord avec Jouba, c'est ce que je disais à Chakib, c'est que l'année dernière, Lacazette, il est très très bon.
Il met
30 buts toutes compétitions confondues. Enfin, je sais pas.
Oui, mais on le sait qu'il y a un problème. On a bien
prédisé
des
chats
à Lacazette.
T'es un attaquant.
Bien sûr.
Tu fais une super saison, tu marques 30 buts et t'es pas appelé par le sélectionneur. T'as les boules un petit peu.
Parce que tu fais le
job nécessaire. Et
tu peux être ballon d'or et être jeté de la Coupe du Monde avec Deschamps. Donc
et tu n'es pas récompensé par rapport à cette super saison.
Bien sûr.
Donc avec la saison compliquée pour Lyon et pour Lacazette, j'ai du mal à voir Lacazette à l'Euro cet été.
Allez, la dernière rubrique de cette émission.
Ça va boxer.
Chakib, ça parle trop, Chakib.
Le coup de poing. Time Sport, le mode pressing.
Voilà, le coup de poing de Jouba en faveur et en direction de Moussa. Moussa, attention, il y a l'esquive. Aïe, le président de la Ligue professionnelle, justement, qui démissionne après ses propos polémiques sur les juges et Tony Yoka. Là aussi, il y a un peu de trash talk. Hein. C'est un peu ce que l'on voit sur les sports américains. Et sans oublier aussi le football français, européen. T'écoutes.
Oui. Bon, ça a commencé le week-end.
Oui, mais quand même, c'est le président de la Ligue. Hein. J'ai l'impression que c'est tout tranquille.
Oui, mais quand c'est le président de la Ligue, mais on l'entend très peu. Et on n'aurait pas dû l'entendre. Malheureusement. Alors, ça a commencé le week-end dernier, vous savez, avec la troisième défaite consécutive. De Tony Yoka, tout se passait entre guillemets déjà mal et monsieur Robin Dolpierre est venu entre guillemets appuyer sur déjà une plaie qui faisait mal, c'est-à-dire qu'il a eu des déclarations vraiment scandaleuses en fait en demandant que les juges en fait auraient pu aider Tony Yoka en accordant un match nul alors que c'est un...
Il a demandé un arbitrage maison.
Alors que c'était un combat que Riyad Mahrez, le Belge, son adversaire a dominé complètement. Si je peux donner deux ou trois rounds à Tony Yoka, c'est déjà bien. Riyad l'a dominé. Il n'y avait rien à dire. Et ces déclarations du président de la Ligue professionnelle de boxe étaient de trop, sachant que lui-même est un arbitre. Donc c'est aussi ça qui pose question. Et en fait, ça ramène à un sujet que beaucoup de gens autour de la boxe connaissent, c'est les fameux vols. Les fameux vols où vous savez qu'on est dans un sport de perception. C'est-à-dire qu'on juge en fait, on juge la prestation de quelque chose, de quelqu'un, et donc il peut y avoir des interprétations différentes, et les gens jouent avec ça, alors que des fois le résultat est clair.
Moi j'ai une question pour toi tu t'y connais très bien dans le monde de la boxe. Comment le président de la ligue professionnelle
peut avoir de tels propos. Enfin, c'est complètement.
Alors, c'est là où c'est ouf.
Mais non, mais c'est
amateur. Moi, je suis d'accord avec toi, Mathieu.
Non, c'est incroyable. Encore, attends, Zubar. Encore,
c'est de l'amateurisme.
À la rigueur.
D'accord avec Zubar.
Oui, mais on n'a rien compris.
Le dise, parce que personne n'a compris.
En fait, cette règle, parce qu'il l'a cité, cette règle. En fait, il disait pour justifier ça, pour ce qu'il disait, il disait oui, quand nous, nos boxeurs vont aller à l'étranger, bah, ils sont victimes aussi de la même chose. Et c'est vrai, il y a cette règle qui est tacite. Ça veut dire que pour gagner à l'étranger, faut allonger le type, sinon impossible de gagner à la décision. Et là, on n'a pas compris pourquoi il a commencé.
C'est grave, parce que ça jette de l'opprobre sur le métier, sur le corps arbitral, sur le sport, etc. Et on sait que dans beaucoup de sports, c'est comme ça et c'est pas bon. Il doit lutter contre ça et pas l'encourager.
Il n'accepte pas le déclin de Tony Yoka.
Juste sur le combat, c'est vrai que le Belge était, je pense qu'il va vraiment, il est vraiment très bon. Ce gars-là, je pense qu'il va encore progresser. Il était très très fort. Et Yoka, c'est vrai, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est dans le mental, mais même physiquement, ça se voit, il est pas au top. C'était un non-combat, donc il y a un problème. Ceux qui travaillent avec lui doivent le savoir. Lui doit le savoir. Il faut le régler très très vite parce que c'est soit sportif, soit psychologique. Mais c'est plus du tout le même boxeur.
Pour moi, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop tard. Il a changé d'entraîneur. On pensait justement qu'il allait avoir du changement. On n'a rien vu de tout ça. Malheureusement, Riyad Mehri l'a ramené à ses peurs. Il y avait quelque chose d'effrayant. On dirait que voilà, il était tétanisé par l'événement. Il arrivait à rien faire. Même ce qu'on appelle le direct du bras avant ne passait pas véritablement. Il a pas gêné en tout cas son adversaire pour qu'il remise. Non.
Mais il n'accepte pas le déclin. Pour moi, Tony Yoka,
ça va être très très dur pour qu'il
revienne. J'ai l'impression.
Il y a deux choses, parce que déjà, dans la suite de cette phrase, le président de la fédération, il dit, il aurait fallu qu'on aide Tony. Là, comment il va faire 3 défaites de suite?
Non, mais
il va faire comme tous les autres champions qui sont sur 3-4 défaites de suite. Il va se relever, il va s'entraîner et puis il va repartir. Moi, la deuxième question que j'ai, c'est là, est-ce que son titre olympique l'a c'est pas ça. Emmené trop haut, trop
ben
vite.
C'est ça. Et je pense que moi je suis d'accord, Bilal.
Ah non, mais attention, son titre olympique, il avait été champion du monde l'année précédente. Ouais, mais bien sûr, ça l'a emmené à avoir des gros contrats. Mais moi, là où je peux en vouloir à Tony Yoka sur ça, mais j'en veux surtout à son entourage.
C'est la fédération le problème.
Non, non. Pas forcément.
Moi, si je peux, mon point de vue, c'est que la fédération professionnelle de boxe se voit la face littéralement. C'est qu'il s'appuie sur le succès, notamment le succès en termes de notoriété qui a été induite par la victoire aux Jeux Olympiques de Tony Yoka, qui a suivi, tu le disais, ce titre en Coupe du Monde. Mais derrière, c'est il n'accepte pas le déclin du champion, il n'accepte pas de pouvoir revigorer une forme de nouvelle intensité au sein de la boxe française, parce que pour le moment il galère, je suis désolé, et il continue de se voiler la face, parce que ce qui vient de se passer là, c'est un énorme aveu de faiblesse de la part de la fédération, c'est du grand n'importe quoi. Moi je suis désolé, Tony Yoka normalement doit avoir une relève, ce qui n'a jamais été proposé par cette fédération, qui n'a jamais été chercher de gros boxeurs capables de reprendre le flambeau, la notoriété et la puissance qu'apporte Tony Yoka dans la boxe française.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il est stagné, c'est qu'il a coulé.
C'est
le mental. Il y a quelque chose dans la tête qui va pas bien.
C'est pas le corps, c'est la tête.
Voilà, c'est la tête.
C'est tout.
Aurélien nous dira ce qu'il en pense.
On voit, championnat de France 2023, du côté de Pantin, place au final. C'est bien ça, c'est ce samedi 16 décembre, dès demain. Timon, c'est la fin de l'émission.
À Deuil-la-Barre, demain, faut aller soutenir.
En place sportif,
soutenir les jeunes talents de France. Il y aura des boxeurs, des boxeuses, et croyez-moi, il va y avoir un spectacle extraordinaire.
Pas moins de 23 duels aussi. Hein.
Il y aura le deuil de la défaite. Exactement. Soyez-y. Retransmis sur YouTube aussi.
Merci Moussa. Merci Ryan. Merci Chekib de chaque match. Sans oublier Jouba et Mathieu avec moi pour m'accompagner.
Ciao.
Un petit clin d'œil aussi à la réalisation en la personne de Solal. Un petit clin d'œil aussi à Angela. C'est ça, ton ami.
Voilà,
c'est ça. Et nous, on vous laisse avec Vanessa et on vous dit un bon week-end à vous, aux auditrices, aux auditeurs de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.